France Inter. .fr.
Bonjour Luc Gallois.
Bonjour.
Vous avez dirigé la SNCF, Airbus, EADS, vous présidez le conseil de surveillance de PSA et aussi la FNARS, la fédération d'associations de solidarité avec laquelle vous mettez votre influence pour que les entreprises s'engagent davantage dans la lutte contre l'exclusion. Vous êtes aussi le père du CICE, le crédit d'impôt aux entreprises qui a été complété depuis par le pacte de responsabilité, la suppression des charges au niveau du SMIC, puis la semaine dernière par des incitations à l'investissement et face à une économie toujours dégradée, un chômage record, le citoyen contribuable est en droit de se demander à quoi ont servi ces dizaines de milliards d'euros décaissés par l'État en faveur des entreprises.
D'abord, ces dizaines de milliards n'ont pas encore été dépensés. Une très large part n'a pas encore été dépensée.
Ils sont programmés pour l'instant.
Sont programmés. Deuxièmement, on le voit dans les marges des entreprises. Elles ont commencé à se redresser. Ça veut dire que le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, produit ses premiers effets. Le problème, ça va être de savoir à quel moment cela va déclencher l'investissement. Parce qu'on parle de reprise, il y a une reprise de la consommation, elle est réelle. Mais le vrai problème, c'est la reprise de l'investissement. Et cette reprise de l'investissement, elle suppose que les chefs d'entreprise prennent des décisions et donc aient la confiance suffisante dans l'avenir.
Est-ce que c'est un problème français ou est-ce qu'il y a un problème mondial sur l'investissement?
Sur l'investissement, il y a un problème européen au moins. L'Europe n'investit pas assez, ni le secteur privé, ni le secteur public. On en fait même le procès à l'Allemagne. Et donc, il y a eu le plan Juncker de 300 milliards. Je pense que c'est trop peu. On aurait pu faire beaucoup mieux au niveau de l'Union européenne, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Mais enfin, ces 300 milliards, il faut les prendre. Et en tout cas, il faut également en France mener les actions qui permettent de relancer l'investissement. Alors, il y a l'investissement public. C'est pas facile en période de réduction des dépenses publiques. On a vu qu'il y avait une mesure de trésorerie. On autorise les collectivités locales à anticiper le revenu de la TVA. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Il faudrait que les collectivités locales puissent réduire leurs dépenses de fonctionnement et maintenir leurs dépenses d'investissement ou les accroître. Il y a l'investissement privé. Il y a la mesure qui a été adoptée d'amortissement, de suramortissement, 140% de la valeur de l'actif. C'est une mesure intéressante. Il y a le logement. Moi, pour moi, c'est un mystère. Il y a de l'argent. L'argent coûte très peu. Et on n'arrive pas à relancer le logement, et notamment le logement social. Je rappelle qu'il y a 1,7 million ménages qui sont demandeurs d'un HLM, actuellement en France, et qui ne l'obtiennent pas.
Et pour ce secteur, l'État devrait reprendre les commandes, les manettes?
Écoutez,
directement.
J'en sais rien, mais les manettes, elles sont du côté de l'État et du côté des collectivités locales.
Ouais.
Ce que je constate, c'est que les collectivités locales sont extrêmement frileuses pour engager des programmes de logements sociaux, pour des raisons diverses. Je pense qu'il doit y avoir un dialogue un peu musclé et peut-être incitatif entre l'État et les collectivités locales pour que les collectivités locales s'engagent à nouveau dans le logement social.
Les collectivités, elles disent qu'elles sont étranglées par la baisse des
dotations. Oui, mais ça peut peut-être se discuter. C'est pas la baisse des dotations n'a rien à voir là-dedans. C'est pas elles qui financent. Parce qu'il faut qu'elles donnent les permis de construire. Et elles hésitent à donner les permis de construire pour des questions d'équilibre et politique dans les communes. Et c'est là-dessus que je pense qu'il faut que les préfets travaillent.
Alors, je reviens à ma question de départ. À vous écouter, Louis Gallois, ce crédit d'impôt et ces baisses de charges, il fallait les faire pour redonner de l'air aux entreprises. Est-ce que vous pensiez, quand vous avez commencé à tirer les sonnettes, c'était à l'été 2012, quand même, il y a près de 3 ans maintenant, est-ce que vous pensiez que ce mouvement engagé prendrait autant de temps pour produire ses effets sur l'économie réelle, comme on dit?
Je pensais que ça serait très long. J'ai toujours dit qu'il faudrait des années et des années pour que l'industrie française retrouve sa compétitivité. J'ai même dit 10 ans. Peut-être qu'on aura des résultats avant, mais ça va être un très long chemin. Il va falloir être très persévérant. Ceci étant dit, si il n'y a pas eu d'impact immédiat sur l'investissement, c'est assez largement parce que la croissance n'était pas là et que les entreprises, elles investissent certainement parce qu'elles ont des marges, mais aussi parce qu'elles savent qu'elles vont vendre mieux dans l'avenir. Et c'est cette confiance qu'il faut qu'elles retrouvent.
Et on n'y est pas encore. Tout à fait.
On n'y est pas encore tout à fait. Et je pense que la reprise de la consommation devrait les y inciter. Actuellement, comme on dit, les étoiles sont alignées. Tout est là pour qu'il y ait une reprise de l'investissement.
Mais pas grâce à la politique suivie par le gouvernement. Vous voyez bien la baisse de l'euro.
Oui, mais les deux.
La baisse du pétrole.
Il y a à la fois la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, les taux d'intérêt extrêmement bas. Ça vient de l'extérieur. Et puis, en interne, il y a le crédit d'impôt compétitivité et emploi, il y a le pacte de responsabilité. 40 milliards, c'est pas rien, c'est 2 points de produit intérieur brut. C'est considérable. Tout ceci devrait inciter les entreprises à investir.
Voilà pour ce qui pourrait éventuellement permettre de recréer de la croissance et donc de l'emploi. Quid des salaires et, si vous le voulez, on peut prendre l'exemple de PSA, dont vous présidez le conseil de surveillance, Louis Gallois, avec cet accord qui a permis de sécuriser des sites pour PSA en échange d'une limitation, très forte limitation de l'augmentation des salaires.
C'est vrai, il y a eu un effort considérable des salariés, à la fois dans le travail et en même temps sur les salaires. Mais en échange, il y avait le fait que tous les sites étaient pérennisés, que tous les sites recevraient un modèle nouveau et que PSA s'engageait à produire 1 million de véhicules en 2016. Et je pense que cet accord est un des éléments qui a permis le redressement de PSA, qui n'est pas achevé, mais qui est, vous le savez, très largement engagé sous la houlette de Carlos Tavares, qui a fait un travail absolument exceptionnel.
Et c'est un modèle, selon vous ?
Je pense que c'est un modèle, non, chaque entreprise a ses caractéristiques, mais c'est un très bon exemple de ce qu'un accord social bien négocié peut apporter une entreprise et la porter en avant pour le bénéfice de tout le monde, y compris des salariés, bien sûr.
Donc la modération salariale pour permettre de sauver l'emploi et l'outil industriel.
Je vous rappelle que PSA a failli passer l'arme à gauche quand même. Donc c'est l'entreprise était en très grande difficulté. Les salariés ont compris qu'il fallait faire un effort. Ils l'ont fait et là, ils ont la récompense. Et je précise d'ailleurs qu'au titre de l'intéressement, ils vont toucher cette année en moyenne 1 250 €. L'an dernier, c'était 23 euros.
Qu'est-ce qu'ils ont apporté les Chinois chez PSA?
Les Chinois, c'est vous savez, le marché chinois, c'est le premier marché du monde. Le PSA vend 750 000 voitures chaque année en Chine, va en vendre plus, on va aller vers le million de voitures. Il était très important que vous ayez une alliance forte avec un partenaire chinois, et ce partenaire, Dongfeng, est le bon partenaire parce que il a les mêmes ambitions que nous.
Vous venez de parler de la modération salariale qui peut permettre de sauver des emplois. Est-ce qu'il faut réformer de façon radicale le marché du travail? Est-ce qu'il faut faire évoluer le contrat de travail? C'est la discussion qui est en cours. Ce sont les propositions du patronat qui sont sur la table aujourd'hui. Vous
savez,
connaissez.
Je crois qu'on peut toujours souhaiter que ça soit mieux. Et je pense que le Code du travail mérite une simplification. C'est clair. Modifier le contrat de travail, il s'agit de savoir dans quel sens. Moi, je pense qu'on ne fera rien de sérieux dans ce domaine si on n'est pas capable de renouer le dialogue social et un dialogue social beaucoup plus constructif. Moi, j'ai considéré l'échec de la négociation sur le dialogue social comme une très mauvaise chose pour la France. Alors, je sais que François Rebsamen, le ministre du Travail, reprend ça et va faire une loi. Mais la loi, elle sera moins bonne que l'accord. Parce que la loi, tout le monde va la critiquer. Alors que l'accord, il engageait les partenaires. Et c'est ça qui était très important. Et je regrette vraiment qu'on n'ait pas pu déboucher sur un accord sur le dialogue social, parce que s'il y a un véritable dialogue social, j'ai vu ça en Allemagne, quand j'étais patron d'Airbus. Lorsque vous avez un véritable dialogue social, vous pouvez avancer sur ces sujets. Moi, par exemple, j'estime que discuter du contrat unique, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Rapprochement entre le CDD et le CDI. Oui, ça sera très difficile, parce qu'évidemment, le patronat va vouloir tirer ça vers le CDD, et les syndicats vont vouloir le tirer vers le CDI.
Oui.
Mais je pense qu'on peut trouver une ligne de crête qui permette de donner de la souplesse au CDI et de réduire la formidable insécurité que crée le CDD.
Pensez vraiment que tout le monde peut y gagner ?
Je pense que tout le monde peut y gagner. C'est une réforme très difficile. C'est pas une réforme de fin de quinquennat, si vous voulez mon avis.
Deux questions à la fois industrielles et qui touchent à l'automobile. On parlait de PSA il y a un instant. Que pensez-vous de la décision de l'État de monter au capital de Renault jusqu'à 20% du capital contre l'avis du PDG Carlos Ghosn. Ouais,
alors je ne m'exprimerai pas sur les affaires d'une entreprise automobile.
Ah oui, mais là c'est les affaires de l'État aussi.
Je suis le plus mal placé pour pouvoir en parler. Non, là franchement, je sors mon joker. Bon, ça se voit pas à la radio, mais il est énorme.
Ah bah c'est dommage. Et l'idée des votes doubles imposés au conseil d'administration.
Alors
de,
les votes
de
doubles, c'est une idée que j'avais exprimée dans mon rapport sur la compétitivité. Donc je ne peux pas la renier. Je trouve que c'est une bonne idée. Vous savez, les actionnaires du CAC 40 tournent énormément. On considère qu'un actionnaire du CAC 40, les grands fonds restent entre 6 mois et 18 mois au capital d'une entreprise. C'est pas, à mon avis, suffisant pour créer un véritable attachement à cette entreprise. Et avoir des actionnaires qui restent plus de 2 ans, c'est bon. C'est bon pour l'entreprise et c'est normal que ces actionnaires qui sont restés plus de 2 ans bénéficient d'un avantage par rapport aux autres.
La modération salariale, elle est aussi à l'œuvre chez les hauts salaires de PSA.
Alors, chez les hauts salaires de PSA, elle n'est pas à l'œuvre cette année, puisque le salaire de Carlos Tavares est nettement supérieur à celui de son prédécesseur, mais pour une raison très simple, c'est que son prédécesseur avait renoncé pendant 2 ans à sa part variable. Vous savez qu'il y a une part fixe et une part variable. Il avait renoncé à la part variable parce que l'entreprise était en très grande difficulté. Le redressement de l'entreprise, qui est manifeste, puisque l'automobile est redevenue une activité bénéficiaire chez PSA, la partie automobile, ce redressement, la part variable a été remise en place. C'est tout à fait naturel. Quant au salaire de Carlos Tavares, il se situe plutôt dans le bas du CAC 40, donc il n'est pas excessif par rapport au marché. Alors évidemment, je l'ai dit 10 fois à propos de ma propre rémunération chez EADS,
ce sont des salaires qui sont limités.
Des salaires qui sont incompréhensibles pour l'opinion publique, mais si on veut avoir les meilleurs, et je pense que dans ce cas, on a tiré un bon lot avec Carlos Tavares, eh bien, il faut pouvoir les payer, parce que c'est un marché mondial, celui des dirigeants de très grandes entreprises, et qu'il faut se mettre pas trop loin du marché. Je peux vous dire, en tout cas, que le salaire de Carlos Tavares, comparé aux autres salaires de l'automobile, est plutôt très dans le bas de la fourchette.
Vous ne voudriez pas parler de Carlos Ghosn, par hasard, dont la rémunération, elle, a explosé, d'après les chiffres qui ont été rendus publics il y a quelques semaines,
Ça fait partie du joker de tout à l'heure.
Puisqu'on est passé à plus de 7 millions d'euros en 2014. C'est le package, la rémunération globale, contre 2,3 en 2013. C'est pas raisonnable?
Je vous ai dit que je ne me prononcerai pas sur Renault, parce que je suis vraiment très très mal placé pour en parler.
Louis Gallois, invité de France Inter.